France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. La cérémonie des JO, ce sera sur invitation. La question est tranchée pour des raisons de sécurité et la jauge réduite de moitié. On vous explique dès le début de ce journal. Gaza crie famine. Des femmes et des enfants meurent de faim, alerte l'ONU. Israël n'a plus d'excuses, répète le président américain. Tandis qu'en France aussi, le message se fait plus ferme à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'actualité, c'est encore l'Ukraine. Le président français appelle ses alliés à ne pas être lâches. Ces perquisitions à l'hôtel de ville de Paris, c'est la suite du Tahiti Gate. De 100 à 150 euros d'augmentation pour les personnels de crèche. 10 000 postes sont vacants dans le secteur. Et puis un projet de ferme à 3 000 vaches inquiète près de Limoges. Juste après ce journal, la lutte contre l'obésité au téléphone sonne 01 45 24 7000.
France Inter.
Il faudra donc avoir un carton d'invitation, enfin un QR code d'invitation pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Cette fois, la question de la jauge est tranchée. Les organisateurs espéraient accueillir 600 000 spectateurs. Ce sera finalement moitié moins pour des raisons de sécurité. Détaillé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Sarah Guibaudeau.
Bonsoir.
C'en est fini d'une cérémonie ouverte à tous.
Alors, il y aura deux catégories de spectateurs au bord de la Seine. Ceux qui auront acheté l'un des 104 000 billets qui vont être mis en vente pour le bas des quais et certains ponts. Et il y aura sur le haut des quais 222 000 places gratuites. Trois personnes par mètre carré réparties dans des box. En retranchant les espaces avec les boîtes des bouquinistes, le président de la République a décidé de ne pas y toucher. C'est ce qui explique ce nouvel abaissement de la jauge. Alors, 326 000 places, c'est l'équivalent de 4 stades de France, souligne Gérald Darmanin. Mais en effet, ce ne sera pas ouvert à tout le monde.
La question qui s'est posée, c'était comment on sélectionne ces personnes, puisque évidemment, pour gérer des mouvements de foule, on ne peut pas dire à tout le monde de venir. Et puis, pour des raisons que chacun comprend de sécurisation, notamment devant la menace terroriste des dernières semaines, on est obligé de pouvoir faire gratuit, mais encadré.
Les places gratuites seront donc proposé par les partenaires. Le COJO, le comité d'organisation, la mairie de Paris et les villes hautes comme Saint-Denis, la région Île-de-France, les départements, certaines fédérations sportives qui vont jouer le rôle de tiers de confiance pour sélectionner les spectateurs.
Et comment on sécurise tout cela, Sarah ?
45 000 policiers et gendarmes mobilisés, notamment pour contrôler l'accès au périmètre de sécurité, QR code et papier d'identité demandés. Les unités d'intervention spécialisées, GIGN, RAID, BRI, se sont répartis les rôles au plus près de la cérémonie, avec 10 bateaux, 4 hélicoptères. L'espace aérien sera, on le rappelle, totalement fermé entre 19h et minuit. Ajoutons une centaine d'équipes cynophiles, des dispositifs anti-drones et un contrôle en amont des participants. Déjà 90 000 enquêtes administratives effectuées sur les volontaires ou les employés et 280 refus d'accès par les services de renseignement, dont 6 fichés S.
Et quant aux Jeux paralympiques, Sarah, dont la cérémonie d'ouverture est-elle prévue le 28 août, place de la Concorde à Paris, la jauge sera bien plus modeste, 65 000 personnes, la moitié en tribune, l'autre qui pourra suivre gratuitement le défilé des athlètes sur la partie basse des Champs-Élysées. Et c'est à cause d'un déplacement sur le site des épreuves de surf à Haïti qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, est aujourd'hui visée par une enquête parce qu'elle avait prolongé son séjour de 2 semaines à titre privé. Le parquet financier a ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt et l'hôtel de ville a été perquisitionné ce matin, Pierre de Cossette.
C'était au départ un déplacement strictement professionnel. Une semaine, en octobre dernier, avec 5 collaborateurs dans le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, puis Polynésie, avec au programme notamment la visite du site de surf retenu pour les Jeux Olympiques. Cette visite a finalement été annulée en raison des tensions sur place. Mais pour Anne Hidalgo, le séjour s'est prolongé. 2 semaines de vacances en famille. À Paris, polémique sur le coût de ce voyage, près de 60 000 euros déboursés par la mairie de Paris, avant que la commission de déontologie de la ville affirme qu'aucun fonds public n'avait été utilisé à des fins privées, autrement dit que ce n'est pas la mairie qui avait pris à sa charge le séjour personnel d'Anne Hidalgo. Mais une association anticorruption et plusieurs élus ont signalé les faits à la justice. Le parquet financier a ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Et ce matin, à 10h, les enquêteurs de la police judiciaire parisienne se sont présentés présentés à l'hôtel de ville et dans les annexes. Selon nos informations, ils ont notamment perquisitionné le bureau d'Anne Hidalgo.
Information signée Pierre de Cossette. Et vous m'aurez corrigé, les épreuves de surf auront bien lieu à Tahiti et non pas à Haïti.
Allez, à 19h05, un soutien inattendu à l'Assemblée aujourd'hui. La gauche salue les mots de fermeté du gouvernement sur la situation à Gaza.
Image encore jamais vue depuis les attaques du 7 octobre. Réponse de la secrétaire Chrysoula Sakharopoulou à la secrétaire d'État chargée du développement à une question posée par le député insoumis Thomas Porte.
Depuis 151 jours, 30 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. 210 par jour, 8 par heure, 1 toutes les 7 minutes. Combien de temps la France va regarder le massacre à Gaza sans agir? Combien de temps la France va rester sans prendre des sanctions économiques et diplomatiques? Monsieur le ministre, quand enfin allez-vous passer des paroles aux actes pour imposer un cessez-le-feu et arrêter le massacre du peuple palestinien?
Voilà, la question était adressée au chef de la diplomatie française et c'est donc la secrétaire d'État Chrysoula Sakharopoulou qui répond.
Les bilans humains et la situation humanitaire dans les bandes de Gaza sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser. Un cap supplémentaire a été franchi jeudi dernier lorsque des civils palestiniens ont été pris pour cible par des soldats israéliens au cours d'une distribution d'aide. Nous exprimons notre plus ferme réprobation envers ces tirs israéliens. Les civils palestiniens n'ont pas à être les victimes d'atrocités commises par les Hamas. Israël a l'obligation de tout faire pour épargner les civils.
Applaudissements des rangs de la gauche dans l'hémicycle. Échange suivi par Laurence Perron. Condamnation ferme donc du gouvernement. Après le bain de sang de jeudi dernier au cours d'une distribution d'aide alimentaire à Gaza, plus de 110 victimes. Et le pire arrive aussi parce que l'enclave meurt de faim. Les États-Unis se sont résolus à larguer de l'aide par avion et l'ONU s'alarme chaque jour un peu plus. Aujourd'hui encore à Genève où vous vous trouvez. Bonsoir Jérémy Lanche.
Bonsoir.
Officiellement, on ne peut pas encore parler de famine, dit l'ONU, mais ça y ressemble énormément.
Oui, il y a quelques jours, une équipe de l'OMS a pu se rendre pour la première fois depuis le début de la guerre à l'hôpital Kamal Adwan. C'est le seul hôpital pédiatrique au nord de la bande de Gaza. Le nord de Gaza où les enfants ont encore moins à manger qu'au sud, explique James Elder. C'est le porte-parole de l'UNICEF.
Il y a trois fois plus de malnutrition chez les enfants au nord qu'à Rafah. C'est bien la preuve que quand l'aide arrive, elle sauve des vies.
Et le problème, c'est que cette aide ne parvient pas jusqu'au nord. Au moins 10 enfants y sont morts de déshydratation ces derniers jours, dont des bébés. Écoutez encore James Elder, je vous préviens, les mots qu'il utilise sont assez durs.
Il faut comprendre ce que ça veut dire pour un bébé de mourir de déshydratation. Ça veut dire qu'on essaie d'abord de le perfuser, mais on n'y arrive pas parce qu'on ne trouve pas de veine. Alors on va essayer de piquer une veine dans la tête. C'est quelque chose d'extrêmement traumatisant pour le bébé et pour les parents. Mais là aussi, ça ne va pas marcher. Alors on va poser un tube dans la trachée, jusque dans l'œsophage, et ça ne marchera pas, encore une fois.
Une scène insoutenable et qui se reproduit peut-être en ce moment dans d'autres hôpitaux. Alors famine ou pas famine, ça ne change pas grand-chose, disent les humanitaires, puisqu'on meurt déjà de faim et de soif à Gaza.
Et Jérémy Lanche en direct de Genève et les États-Unis, je le disais, ont augmenté les largages d'aide par avion aujourd'hui, l'équivalent de plus de 36 000 repas, tout en demandant à Israël de faire plus pour permettre l'acheminement par la route. Et le chef de la diplomatie aujourd'hui redemande au Hamas d'accepter les conditions d'un cessez-le-feu immédiat, alors que les négociations continue au Caire en Égypte.
Emmanuel Macron met en garde les alliés contre un esprit de défaite en Ukraine.
Le président assume depuis Prague son sursaut stratégique, ses propos controversés sur l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine. Il appelle les alliés à ne pas être lâches, dit-il, face aux menaces répétées de Vladimir Poutine. Et on le sait, cette guerre est aussi une guerre d'information. Les citoyens russes sont coupés des médias indépendants. C'est pour cette raison que Reporters sans frontières annonce aujourd'hui le lancement d'un bouquet satellitaire, Svoboda, Liberté en russe, pour leur permettre un accès à une information dont ils sont privés. Angélique Bouin est à Bruxelles.
Radio Sakharov, Echo, Ost-Ouest 24, ces 9 chaînes sont produites par des journalistes en exil installés à Berlin ou en Suisse. Journaux, tables rondes, l'objectif est de toucher 10 à 12 millions de Russes équipés des bonnes antennes. Il faut contourner le redoutable système de censure des médias et d'Internet imposé par Moscou, explique Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières.
On est dans un système où ce sont des régimes autoritaires, comme celui de Moscou, qui exportent leur propagande vers des démocraties. Là, avec Svoboda, nous faisons en sorte que depuis des démocraties soit exporté du journalisme indépendant, du journalisme digne de ce nom. On réalise concrètement un travail qui permet d'apporter de l'information dans le salon et les cuisines des Russes.
On me demande souvent pourquoi les Russes ne se révoltent pas, témoigne Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie Liberté engagée dans ce projet. C'est souvent, dit-elle, faute d'information.
Étant déstabilisés par une information qui n'est pas claire, fausse, ils préfèrent se désintéresser de la guerre et surtout se désintéresser de l'activité civique de contestation et de protestation.
800 000 foyers ukrainiens des zones occupées par la Russie pourront aussi les recevoir. À terme, ce bouquet comprendra jusqu'à 25 médias indépendants en langue russe. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Emmanuel Macron remet l'Ukraine au cœur de l'agenda politique à quelques mois des européennes. Le chef de l'État recevra les chefs de parti jeudi à l'Élysée et un débat est prévu mardi et mercredi prochain à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y en a pour plusieurs centaines de millions d'euros de préjudices dans l'usine Tesla de Berlin. La plus grande usine européenne du géant américain de voitures électriques a été sabotée ce matin. Action revendiquée par un groupuscule d'extrême gauche. Un incendie qui a réussi à mettre hors service un pylône électrique obligeant l'usine à stopper sa production. En France, le Conseil d'État donne raison à 8 régions contre SNCF Réseau. Des régions qui contestent les augmentations exigées par la compagnie pour faire circuler les TER. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Hélène.
La plus haute juridiction administrative confirme que la fixation des tarifs n'était pas régulière.
Oui, c'est la manière, la procédure qui est retoquée. SNCF Réseau, dit le Conseil d'État, n'a pas donné assez de temps ni d'informations aux régions pour pouvoir, si besoin, contester les hausses de ces péages, 8% en moyenne, beaucoup plus pour la région Centre-Val de Loire, s'étrangle son président François Bonneau.
Une augmentation dans ma région, 13%, qui n'a pas été négociée, sur laquelle on ne nous a pas donné le temps d'analyser la réalité des coûts, comprendre ce que la SNCF veut nous faire payer.
Et ces hausses ne sont pas neutres sur le budget des régions, insiste le vice-président transport des Hauts-de-France, Christophe Coulon.
14 millions d'euros de plus en 2024 avaient été décidés par SNCF Réseau avec cette augmentation du péage, ce qui fait qu'on aura dépassé la barre annuelle des 150 millions d'euros de droits de péage pour faire circuler nos TER, ce qui est un chiffre complètement délirant.
Les régions demandent plus de transparence. SNCF Réseau a besoin de ces frais de péage, dit-elle, pour améliorer les infrastructures et apurer sa dette. Le gestionnaire et les 8 régions concernées ont 7 mois désormais pour reprendre les négociations en limitant les hausses de ces péage, espère bien Thibaut Philippe, ce vice-président transport du Grand Est.
Si à un moment on n'est plus en capacité de pouvoir prendre en charge ces augmentations, ça va forcément se faire soit au détriment de l'offre et donc il va falloir limiter le nombre de trains qui circulent, soit par ailleurs augmenter fortement les billets.
Et pas question, dit-il, de faire tout supporter à l'usager ou aux collectivités.
Mathilde Dehimi, les professionnels de la petite enfance n'avaient pas bénéficié du Ségur de la santé et de ses 183 euros d'augmentation. Mais le gouvernement fait un geste aujourd'hui pour répondre au manque d'attractivité du secteur. 10 000 postes non pourvus. La ministre des Familles annonce entre 100 et 150 euros nets d'augmentation par mois pour les personnels de crèche. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir.
Un geste significatif, même si ça ne veut pas dire tout de suite et pour tout le monde.
Oui, la caisse d'allocation familiale, la CAF, financera 66% de cette augmentation de salaire. 100 euros dans les crèches publiques, 150 dans le privé. Mais le gouvernement prévient, cela va prendre des mois avant de se concrétiser sur les fiches de paye. Dans le privé, la négociation se fait branche par branche et l'aide de l'État sera versée sous condition. Des contreparties seront exigées, précise la ministre en charge des familles, Sarah El Haïry.
Par exemple, de créer des parcours qui peuvent être construits pour qu'on puisse se projeter dans d'autres métiers.
Du côté des crèches publiques, ces hausses de rémunération dépendront de chaque collectivité et surtout de leurs finances. Laisse entendre Clotilde Robin de l'Association des maires de France. Elle était auditionnée la semaine dernière à l'Assemblée nationale.
Quand on a des territoires où il y a une secrétaire de mairie à temps partiel et qu'il faut déjà aller gratter du budget pour l'accompagner sur le plan salarial, ce sera compliqué d'aller trouver du budget pour travailler sur la petite enfance.
Pour Cyril Godefroy, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance, cette hausse de 100 ou 150 euros, c'est bien, mais pas suffisant pour créer des vocations.
Ce n'est pas ce qu'on attendait, ce n'est pas à la hauteur. On est plus ou moins 300 euros inférieurs en moyenne dans le secteur au salaire médian français. Donc nous, on aimerait bien avoir beaucoup plus pour rattraper ce retard-là.
Et si cette revalorisation est appliquée dans toutes les crèches, elle représentera un investissement de 240 millions d'euros par an pour l'État.
Alice Cachaner à Toulouse, les deux ouvriers gravement blessés sont aujourd'hui hors de danger après le tragique accident sur le chantier d'une ligne de métro. Hier, l'effondrement d'une partie de l'ouvrage, l'accident qui a fait un mort. Au Royaume-Uni, la princesse Kate Middleton sera présente le 8 juin prochain à la traditionnelle parade militaire organisée pour l'anniversaire du souverain britannique. C'est le premier engagement officiel que le gouvernement confirme. Il y en aura peut-être avant, mais ce n'est pas le retour à la normale fin mars qu'évoquait Buckingham Palace dans un premier temps. L'épouse du prince William, qui a subi une opération à l'abdomen mi-janvier, dont les Britanniques savent peu de choses et son état de santé inquiète beaucoup. Richard Placette à Londres.
On ne sait pas de quoi elle souffre. On ne connaît pas son état. Sa convalescence paraît bien longue pour James. Ce fan de la couronne se fait du souci pour elle.
Ils occupent une place primordiale dans notre existence. Kate ne va pas bien et je ne sais pas ce qu'elle a. Ça m'inquiète. J'aimerais qu'on nous le dise. C'est très important.
Opérée le 16 janvier, elle est ensuite restée près de 2 semaines à l'hôpital avant de rentrer chez elle. Son mari, le prince William, a passé plusieurs jours à ses côtés. Son entourage précise qu'elle ne souffre pas d'un cancer. La semaine dernière, William annule sa participation à une cérémonie officielle au dernier moment, suffisant pour affoler des millions de Britanniques comme Francis. Ce commerçant craint pour la santé de Kate.
La grande inquiétude, c'est de perdre à nouveau quelqu'un de la famille royale. J'ai connu la mort de Diana, celle de la reine bien sûr. Ça m'a rendu très triste à chaque fois. Alors on regarde ça de très près.
Aujourd'hui est sortie une photo, floue, prise de loin par un paparazzi. Kate porte des lunettes de soleil dans une voiture conduite par sa mère à proximité du château de Windsor où elle se repose. Ce cliché éteint au moins temporairement les rumeurs les plus alarmistes sur son état. Très présente dans la vie publique du pays, on la voit quotidiennement et les médias rendent compte de chacune de ses apparitions. Son absence depuis des semaines pèse lourd. Londres, Richard Place, France Inter.
La méga panne sur les réseaux sociaux de Meta, Facebook, Instagram, inhabituelle cet après-midi, mais résolue. Ce soir, le porte-parole du groupe le confirme à l'instant.
Y aura-t-il bientôt plus de vaches que d'habitants à Périllac, en Haute-Vienne?
Nous sommes au nord-ouest de Limoges et c'est un projet de ferme de plus de 3000 bovins qui inquiète. Les habitants l'ont découvert un peu par hasard avec les affiches annonçant l'ouverture d'une enquête publique. C'est un agriculteur qui vend son exploitation groupe Terea, basé dans la Drôme, et le changement d'échelle inquiète Nathalie Colle.
Pascal Boulesté vit à 400 mètres de l'exploitation et se dit...
Opposant peut-être pas, mais inquiet oui, parce qu'à ce stade-là, pour moi, c'est plus l'agriculture, c'est l'industrie.
Il redoute les nuisances comme le bruit, les odeurs et une éventuelle pollution de l'environnement.
On veut que le fumier soit correctement traité, qu'il n'y ait pas d'écoulement dans les ruisseaux qui alimentent les nappes phréatiques et les étangs qui sont autour du complexe. Il y a aussi la gestion de l'eau. Ça consomme, selon les experts, entre 40 et 50 litres d'eau par bête par jour. Donc ça fait beaucoup d'eau.
Pour les abreuver, un réservoir doit être créé et alimenté par les eaux de pluie récupérées des toits des 10 énormes bâtiments déjà existants, mais pas sûr que ça suffira, disent certains riverains. Et plus largement, c'est aussi un débat sur notre modèle d'agriculture qui se pose, selon Hugo Bourdin, agriculteur à Volery, une commune voisine, et membre de la Confédération paysanne.
Au moment où voilà, on parle des revenus des paysans, là on est clairement sur un contournement. En fait, l'agro-industrie devient propriétaire des fermes. Ça squeeze un peu le travail du paysan. Donc c'est sûr que la vie dans les campagnes va en prendre un coup.
De son côté, le maire de Périllac refuse de s'exprimer pour le moment. Il souligne simplement que cela permettra de sauvegarder 5 emplois et prévient que le conseil municipal sera attentif au bien-être animal et aux conditions d'élevage de ses bêtes.
Le reportage France Bleu Limousin, le groupe Terea que la rédaction a joint et qui porte le projet n'a pour l'heure pas répondu à leur sollicitation. Le sport et la performance, c'est ce casque extravagant exhibé par Jonas Vingegaard et son équipe sur le Paris-Nice, extra large, qui ressemble un peu au casque de Dark Vador dans Star Wars, mais en jaune, aérodynamique, déjà controversé. Bah, c'était pour avoir l'image.
L'UCI,
l'Union Cycliste Internationale, dit déjà qu'il soulève un problème notable et qu'il l'incite à revoir son règlement en la matière. Et puis le sport, c'est aussi le foot. Ce soir, 8e de finale retour de la Ligue des Champions en Espagne. Le PSG, vainqueur 2-0 au match aller, affronte la Real Sociedad de Saint-Sébastien pour une place en quart de finale.
Merci Hélène Philly. Vous reviendrez demain. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. On va parler d'obésité ce soir. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Élodie Calac, un temps plus calme pour demain.
Oui, les averses s'estompent ce soir et cette nuit. Demain, du nord-est aux Alpes, le ciel sera encore encombré. Quelques pluies possibles, un petit peu de neige vers 700 à 1000 mètres. Du nord de la Seine vers la région parisienne et la Bourgogne, là aussi, beaucoup de nuages, quelques gouttes. L'après-midi, ça s'éclaircira un peu, mais il faudra composer avec quelques averses. De la Bretagne au nord de la Garonne, un peu de pluie aussi qui s'estompera au fil des heures. Et puis ailleurs, les nuages assez nombreux le matin laisseront passer de petites éclaircies l'après-midi, plus belles vers le Lyonnais, vers l'Auvergne. Enfin, du sud de l'Aquitaine, vers la Méditerranée, là le soleil sera au rendez-vous dès le matin. Seule la Corse aura droit à des averses, parfois orageuses au nord, et le vent soufflera jusqu'à 70 km à l'heure.
Avec des températures de saison.
Oui, alors il fera quand même plus frais que ce matin, souvent 1 à 7 degrés demain matin, quelques gelées vers le nord-ouest, Champagne-Ardenne, les massifs également, et puis l'après-midi, petite hausse par l'ouest avec 10 degrés attendus à Lille, à Mulhouse, 11 à Paris, Limoges et Lyon, 13 à Nantes ou à Montauban, 15 du côté de Nice et 17 à Bayonne ou à Perpignan.